France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla, comme vous a dit. Avec Emma Beaujean, Camille Lavabre, Bruno Pecchi, chez Pecchi and Pecchi Oldra. Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Bruno.
Et nos invités Nicolas Maury et Lucas Bravo.
France Inter, bande originale, Leïla Cadeau et Nagui.
Un public fou de joie.
Oui,
avec
on n'arrive pas à les tenir.
Mais apparemment, ils ne parlent pas notre langue.
Nous sommes venus en paix.
Nous allons parler avec Nicolas Maury et Lucas Bravo de cette série. D'abord, bienvenue. Lucas, c'est la première fois.
Ouais.
Incroyable.
Alors
oui. Bah ouais.
Ouais,
c'est déjà dansé. Un petit bilan comme ça.
Voilà. Pour l'instant.
Et Nicolas Maury, c'est la première fois aussi.
Oui.
Bizarrement, j'ai envie de dire, parce que non, on a plein d'occasions d'évoquer votre travail. Et,
vos films.
Ces jeunes gens m'angoissent.
Pourquoi? Ah ouais.
Ils me regardent avec une certaine animosité.
Ils ont été fouillés, ils sont passés.
Je suis un homme. Vous pouvez me respecter aussi.
Respectez-moi.
On va, dans cette bande originale, évoquer un film qui s'appelle Les Saisons, qui passe sur Arte.
Je dis
un film, ouais, c'est une série, mais c'est comme un film.
Ouais, c'est mieux qu'un film.
C'est, ouais.
C'est beaucoup mieux.
Ça, on va voir. C'est une histoire sur une trentaine d'années qui démarre sur des histoires d'amour, justement, histoire d'amour.
Voilà. Oh non, Nagui, non.
Je veux tout savoir de vos histoires d'amour. Oh non, mais surtout, seriez-vous capable de retomber amoureuse ou amoureux d'une histoire d'amour d'adolescence?
Non.
Emma.
Merci Leïla.
Je sais pas, non, je crois pas. Enfin, je crois que
en même temps, c'était pas il y a pas longtemps.
Ouais, non, j'ai 14 ans. Donc... Non, je sais pas. Non, je crois que je pourrais fantasmer ce que peut-être on aurait pu devenir, ouais. Mais je crois que non, je pourrais pas.
Pas retourner. Ouais, d'accord. Leïla, c'est non direct.
Non.
Ok, d'accord. Ça, on a gagné du temps. Ouais. Camille.
Moi, oui, je demande que ça. J'adorerais. Ah bon, storytelling, dire en fait, on s'est connus à 15 ans et puis ensuite la vie, chacun a fait sa vie, puis on s'est retrouvés à. Bah là, maintenant, là. Demain.
Bruno?
Non, moi non plus. Non, je me dis que, je sais pas, on a évolué de manière trop différente. Tu vois. Il y a juste deux personnes complètement différentes qui, ça a marché à un moment donné, mais maintenant, je pense pas.
On est tellement de milliards sur la planète.
Oui, autant connaître d'autres choses, quoi. Tu vois.
Yeah. Au-delà.
Moi, je garde des liens très forts avec.
Il parle, le monsieur, avec.
Oui, c'est ça. J'étais en train de me livrer, je n'ai plus envie. Non, je garde des liens très forts avec.
Avec tes premières amours.
Ouais, voilà.
Ah ouais.
D'ailleurs, ils m'ont appelé. Faut que
ça reste platonique, mais c'est très joli.
Mais ça dit pas si tu reviens avec. Non, garder un lien, c'est pas la question.
Non, mais ça reste très fort, mais c'est platonique, mais c'est très joli.
Tanguy.
Non, j'aurais peur de lire la déception dans le regard des gens, je pense,
non.
Parce que on a tous
tendu coup de gueule, moi,
bah, voilà. Bien sûr, bah, oui, évidemment. Mais j'en ai conscience, donc tout va bien.
Daniel ?
Moi, elles sont toutes mortes. je veux bien essayer des nouveaux trucs. Elles sont toutes décédées.
Elles étaient déjà mortes quand on les a rencontrées, c'est ce qu'il dit.
Il y en a certaines.
Oh non,
certaines.
Je viens de comprendre.
Oui,
c'est dégueulasse.
Ah, t'as compris ?
Oui, non, elles étaient déjà mortes, oui, je viens de comprendre.
Ouais. Et toi, Nagui ?
Alors, moi, ça m'est arrivé, et c'est très gênant.
Ouais.
De recevoir une lettre d'une histoire d'amour passée et une déclaration d'amour avec on a eu tort, on s'est séparé
jusqu'au bout de l'aventure.
On s'est séparé, machin.
T'as vu à la télé. Ouais. C'est quand elle a vu que t'avais percé. C'est parce que t'as percé, c'est pour ça.
J'ai vu ta maison.
Je suis passée dedans.
J'ai vu ta bagnole.
Et je me vois mort dedans.
Et ça m'a fait peur. Et ça m'a fait très peur. Lucas Bravo, des histoires passées qui reviendraient, c'est possible ou pas?
Bah, moi, je reste toujours profondément amoureux de toutes les personnes qui ont partagé ma vie. Je trouve ça très bizarre d'avoir un lien tellement fort et de se connaître, de s'envisager juste en un regard. Et puis
genre
après...
jamais aucun clash, jamais plus le côté plus jamais ça justement. Je suis tombé sur une folle ou un fou et je veux pas y retourner.
Non, j'ai l'impression que j'ai eu la chance de toujours me séparer en plutôt bon terme. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'ai revu quelqu'un, j'ai remis le couvert pour être cru 10 ans plus tard avec un de mes premiers amours. Ça n'a pas duré, mais c'était assez intéressant de se retrouver, de voir comment on avait évolué, les trajectoires qu'on avait prises. C'est assez. Ouais.
Parce que c'est un peu quand même le sujet. Alors, Nicolas, cette série, je vais y arriver.
Moi, je ne dois pas répondre à la
question. Si, justement.
On ne m'a jamais aimé.
Mais je. Ça, on peut le comprendre. Ça. Mais.
Il ne le pensait pas.
Non, je voulais dire que ces saisons ne sont pas autobiographiques, justement. C'est ça que je voulais souligner. Ça peut l'être peut-être pour Hélène qui a été à l'initiative de ce projet. Oui. Mais vous, seriez-vous capable de retrouver des histoires d'amour passé?
Oui, parce que je suis un peu un mélancolique. Et la mélancolie, c'est la nostalgie du chant du pays perdu. Ouais. Même si on n'a pas connu ce pays.
Mais dîner ensemble, par exemple.
Et juste ça, voilà. Tais-toi avec ta mélancolie, là.
On peut l'expression, remettre le couvert, c'est ça. Oui.
Moi, je suis content que vous soyez là.
C'est ce que je voulais dire.
C'est vrai.
Moi, je suis content.
Oui. Les saisons, cette série donc, a été créée par Hélène Duchâteau. Elle a co-signé avec vous, Nicolas, l'histoire.
Le film, hein.
Et vous réalisez. Ouais, parce que c'est quand même une. Je ne sais pas si c'est tourné en pellicule, mais en tout cas, il y a un grain dans cette image sur les 30 années de 91 à 2001, ce spectre-là, avec une rencontre plutôt étonnante, la première fois que cette jeune fille voit ces deux garçons en train de faire pipi, il n'y a pas d'autre terme, sur sa propre planche, ouais. Ouais, c'est vrai. Et elle va tomber amoureuse de l'un des deux, c'est justement ce que l'on vit pendant ces 30 ans, et avec beaucoup d'émotions, y compris dans la maison familiale, y compris dans ce décor, y compris avec des rancœurs, des doutes qui viennent animer mais beaucoup de complicité, beaucoup d'amour avec les enfants et aussi la maman qui vieillit avec tous les personnages d'ailleurs vieillissent au fur et à mesure et c'est même extrêmement touchant. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Hold de la fan de Nicolas Maury et Lucas Bravo. Oui.
Vous allez en faire fou les enfants. Ouais, je suis fan de Nicolas Maury, comédien, réalisateur et chanteur aussi. On est heureux à chaque fois où l'on voit 10%, sauf quand 10% c'est mon état de forme du moment. Je suis fan de Lucas Bravo. Votre carrière est sublime et j'ai qu'un seul mot.
Non.
Lucas,
non.
On a commencé tous deux comme mannequins, mais bon, vous, vraiment, moi j'aurais pu si on acceptait les gens différents. Et vous êtes ici ensemble pour les saisons.
Saison.
Un triptyque amoureux, une fille et deux garçons.
Garçon.
Un peu comme Nagui à Daniel avec Leïla. Bon, la seule différence, c'est qu'elle, elle les aime pas. Qu'un couple à trois, en vrai, ça passe. Même à 15, si dans les douches de la prison y a de la place. En revanche, là, c'est chaud car l'histoire se passe en Vendée. Et les mœurs sont plus strictes, bien sûr. Sauf chez les deux Villiers.
C'est clair. Merci.
Celle Marie, l'ami, toujours s'adore. Mais y a une douleur. Leur amour, Camille, qui les aime fort, a du mal choisir son cœur. Oh, 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 triptyque pour les hommes. Oh, 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 triptyque pour la femme. Un triptyque pas de vin. Oh, 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 triptyque c'est le drame. Oh, dommage, je pense que la série sera pas prise au César, tout simplement parce qu'il n'y a pas de série au César. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec, je vous entends,
la bande originale.
Ouh, 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 ouh.
Hold de Lève sur scène à Paris aux Folies Bergères le 1er avril prochain.
Les saisons, évidemment, ce sont quatre épisodes qui suivent l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et pourtant, ça ne peut pas se résumer simplement à ce côté très météo, j'ai envie de dire, Nicolas. Pourquoi avoir pris l'idée des saisons à part avoir quatre moments, quatre périodes sur les 30 ans?
Parce que c'est, moi j'arrive assez bien, je crois, à écrire les relations entre les hommes sentimentales, hommes-femmes, etc. Ou les humiliations, ou les ruptures. Mais j'arrive un peu moins à écrire ce que c'est que le plus grand, c'est-à-dire le social, le sociétal, la France. Donc c'était aussi comme quatre films d'histoire. C'est pour ça que je vous rejoins quand vous dites c'est un peu un film, parce que pour moi c'est un peu quatre films. Et ça me permettait de voir que 91, 2001, 2010, 2022, en fait, on n'aime pas pareil, je crois. Moi qui pensais être un romantique, être très 19e siècle, en fait, je suis bien d'aujourd'hui. Et je pense qu'on est agi, même dans nos relations d'amour, par l'époque qu'on vit.
On n'aime pas pareil, y compris avec l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des Exactement. Images aussi qui nous replongent dans des situations ouais. où on a peut-être besoin de plus d'amour, où on est plus léger, ou inversement.
Et puis, par exemple, 2001, l'arrivée de nos meilleurs ennemis, que sont ben, ces surfaces planes, là, les téléphones, portables. Les portables, avec les applis, etc. Je pense qu'on voilà, on est vraiment agi et secoué ben, dans nos... Et tant mieux. Dans
et,
nos
et les attentats de 2001 aussi, oui. Qui étaient oui. devant d'actualité.
Qui 2010, pouvaient... qui, ouais. qui est aussi pour moi une façon de parler de cette inquiétude écologique avec la tempête Xynthia ouais. dans ce même endroit de la France. Mais ce début d'inquiétude qui était déjà trop tard. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis 2022, c'était aussi pour se rapprocher avec les mêmes personnages, avec cette même histoire d'amour, de qu'est-ce que c'est, nous, réalisateurs, nous employons souvent à filmer le now, quoi, le présent. Et donc, ça me permettait d'arriver tout proche de maintenant, de qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Voilà. Cette histoire sur le temps, cette histoire d'amour, alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller pour ne pas spoiler l'une des saisons, en l'occurrence le printemps qui clôt cette série. Mais en tout cas, c'est une jeune fille, une adolescente qui rencontre deux adolescents sur une plage. Elle tombe amoureuse de l'un des deux. On la retrouve quelques années plus tard. Mais elle va se marier avec l'un des deux et l'autre sera, est-ce qu'on peut le dire, ou pas,
oui, bien
son
sûr.
Amant. Parce que c'est une sorte de Jules et Jim des temps modernes que vous avez reconstitué, Lucas Bravo. Vous l'avez vécu comme ça, comme une histoire... c'est pas vraiment de l'amour à trois, parce que la formule est un peu trop... c'est un raccourci. Oui. Elle est ballottée, elle aime sincèrement les deux hommes.
Mais de même que les deux hommes s'aiment aussi. Enfin, il y a un amour très beau entre les hommes.
Oui, bien vu, il y a quelque chose de sous-jacent avec les garçons aussi. Et c'était incroyable à vivre, parce qu'on est, quand on est sous le regard de Nicolas, on rentre vraiment dans une bulle, dans un univers, et on était en Vendée, comme ça, au début de l'hiver, et on est rentré vraiment dans une sorte de mélodie, on a tous accordé nos instruments à Nicolas, et puis c'est devenu, moi je me suis laissé vraiment bercer par cette histoire.
Je ne peux pas faire autrement que...
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, oui. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés.
C'est vraiment Jules et Jim. Oui, c'est même si pas exactement évidemment les mêmes caractères, c'est pas une adaptation, mais on est dans ce schéma-là.
Moi, j'avoue que j'ai voulu, quand je suis rentrée dans l'écriture, je trouvais que c'est une femme qui a écrit ça, et j'aime beaucoup les écritures de femmes, etc.
Hélène
du Château. Mais c'était un peu, je suis une femme, et entre les deux, mon cœur balance, et je me suis dit, tiens, dans une fiction aujourd'hui, s'il y avait un homme et deux femmes, et qui disait entre les deux, mon cœur balance aussi, ça se passerait pas. Donc je pense, dans cette égalité des représentations masculines ou féminines, il faut aussi réélaborer l'endroit du désir. Et moi, je me suis servie, j'avoue, de ce personnage de Camille pour être au milieu du désir et regarder les hommes hétérosexuels. Sans homoérotisme, je préfère le dire, puisqu'on pourrait croire que mais je peux le faire par ailleurs, évidemment, puisque je suis... je crois être un peu homosexuel. C'est pas bizarre.
On en parlera plus tard. On en parlera plus tard.
Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est
que... Il a fait une chanson pour toi, Boucher. Je suis pédé.
Mais vous ne rigolez jamais en face. C'est ça qui est génial.
Ils sont petits. Ce sont
des hologrammes.
Ils sont très impressionnés. C'est la première fois qu'ils
font ça. En fait, c'est un bulle par l'IA. Est...
Non, ils sont tout mignons, regarde.
Non, mais voilà. Non, c'est juste que je trouve qu'il faut... Voilà, il faut réoxygéner, réoxygéner la présence masculine au cinéma.
Oui, mais il y a des histoires d'amour. Alors, on parle de... Alors, je ne veux pas dire ambiguïté, parce que c'est une histoire d'amour entre les garçons, mais comme l'amitié est une histoire d'amour.
Oui, et comme c'est de là, c'est pire
et pareil,
que ça.
Et pareil pour les filles aussi, parce que les deux filles aussi s'aiment.
Mais l'amour n'est jamais ambigu.
Le nom de l'autre personnage, pardon. Je vais la retrouver. Il y a Camille et Suzanne, c'est ça ? Non, pardon, Suzanne, c'est la maman. Jenny
et Camille, oui.
Ah, c'est ça, qui sont deux copines. Là aussi, il y a une ambiguïté dans leur
Non, il y a des torrents d'amour. Je ne sais pas. Je vous souhaite, Nagui, d'avoir des torrents d'amour. Mais hors couple, enfin je veux dire...
C'est une proposition ?
Bon, écoutez, je vais le dire, voilà, j'avais fait une interview pour Elle Magazine.
Allez, vas-y.
Voilà, et on m'avait dit, c'est qui votre fantasme inavouable ? J'avais dit Nagui.
Oh, on avait dit que c'était inavouable. On avait dit que c'était inavouable.
Je me sens gêné de vous rencontrer en vrai.
Bon, mais deux maintenant. Merci.
Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? La question, elle est là.
Mais dis donc.
Quoi? Moi, ça m'a.
Encore plus inavouable.
Voilà.
Bon, les amis, on va y aller.
Il est tout rouge, parce qu'il passe souvent.
Je me suis fripé, mais ça a vu abaisser. Donc, comme ça. Avec là aussi, il fallait trouver les personnages qui allaient incarner cette histoire, parce qu'il fallait que ce soit crédible, que ces couples-là soient crédibles, que cette amitié soit crédible. Le casting a commencé dans quel ordre? Comment vous avez constitué le triptyque?
Tout d'abord, j'ai rencontré Lucas au sommet d'une montagne et je pensais pas être à la montagne.
Lequel des deux était en larmes?
C'était métaphorique. Moi ou la montagne? J'ai pas compris.
Vous étiez en larmes, oui. C'est ça?
Non, j'étais au sommet d'une montagne, c'était pour une maison de vêtements.
Reste là, c'est tout. C'est voilà. Tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, on était au sommet d'une montagne.
Et vous êtes rencontrés.
Et voilà, et sur un télésiège.
Pourquoi vous étiez en larmes, Nicolas, pardon?
Parce qu'on m'a mis dans un télésiège et j'avais pas compris qu'on allait dans un télésiège et j'ai le vertige. Et tout le monde me disait baisse la barre. Et moi j'étais comme un chat dans l'eau. Et donc j'ai pas réussi à baisser la barre.
Tétanisé.
Et je suis arrivée dans un chalet où il y avait une bande d'hommes de 60 ans qui faisaient en nous accueillant.
C'est un chant de Noël, hein, by the way.
Des cols roulés en cachemire de cette maison.
Mais j'ai le droit de chanter si je veux.
Et donc, il y avait aussi Mads Mikkelsen et James Blake, incroyables.
Oh, wow.
Et Lucas Bravo. Non, et je me disais, tiens, ce mec, je le déteste parce que je suis sûr qu'il me déteste. Enfin bref. Et en fait, je l'ai adoré. J'ai eu une espèce d'invasion. J'ai cru qu'on est devenus deux bébés labradors. Et on n'arrêtait pas de faire des jeux comme ça. Et puis après, au moment.
Qui envoyait la baballe? C'est moi, c'est ça.
Quelqu'un d'autre. L'histoire à trois, quoi.
Ah oui, c'est ça, la fameuse.
Donc voilà.
Comment
c'était d'abord Lucas.
Abraham, comment vous l'avez casté?
Alors lui, c'est bizarre, mais je vais raconter la vérité, puisque c'est ça qui est intéressant. J'étais dans une soirée, et puis il y avait une fille qui était amoureuse de lui. Je savais pas qu'il était acteur. J'ai dit, mais t'es amoureuse de ça, mais il est torse nu sur une enceinte, avec ses cheveux, il se prend pour le Christ et tout. Bref. Une semaine après, dans ce même endroit, il arrive et il m'embrasse sur la bouche. Bon, voilà, je le connais pas. Et je me suis dit, waouh, ça se fait pas et tout, j'ai porté plainte. Non, c'est pas vrai. Et du coup, après, j'étais en casting et il y a quelqu'un qui me montre, enfin, la directrice de casting que je salue, Constance de Montois, et qui me montre des essais. Et lui, Abraham, il donne les essais. Et là, je deviens rouge tomate et ma directrice de casting et la productrice disent, là, il y a un problème. Je dis, lui, il m'a embrassé.
Et vous ne saviez pas qu'il était acteur, Wappler.
Et après, je l'ai vu.
C'est un conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez réussir dans le cinéma,
embrassez le réalisateur avant qu'il ne voit les essais. Voilà.
Non, j'aime bien les gens qui me dérangent comme ça.
C'était le cas fait, aussi avec.
Sauf si t'es un réhabitant, quoi.
Et Camille, alors le personnage de Camille, Suzanne Kayan, là aussi, ça a mal commencé.
Oui, Stéphane Kaya. Ah oui, je dois vraiment tout raconter.
Ouais, oui.
Oui, parce que je la trouvais un peu raidasse et elle me trouvait un peu raidasse aussi. Elle a
incarné Florence Artaud dans un film.
Ouais.
Elle est superbe, cette comédienne.
Elle est superbe, Stéphane. Ouais. Et voilà, j'avais besoin de cette actrice incroyable.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est très très mal passé au début. Et puis après, assez rapidement, on a bu beaucoup de vin blanc.
Avec modération, évidemment.
Avec modération.
Beaucoup avec modération.
Merci. Virgin vin blanc.
Très bien, j'aime beaucoup ça. On va la garder. Cette série créée par Hélène Duchâteau, donc co-signée par Nicolas Maury et Hélène. Nicolas, on a réalisé ces quatre films, ces quatre épisodes, ces quatre saisons portées par Lucas Bravo, Abraham Wappler donc, et Stéphane Caillard. C'est touchant, c'est émouvant de voir comment ces couples se construisent, se déconstruisent, comment ils renforcent leur amour par un mariage, mais qui n'est finalement qu'un contrat, comment il y a des coups de canif qui peuvent être donnés dans ces histoires, et comment finalement se mentir à soi aussi. Parce que c'est ça, au fur et à mesure du temps, il y a quelques mensonges qui vont exister, et puis des secrets aussi.
Et c'est bravo. Et c'est surtout aussi se choisir soi-même. Ça fait un peu banalito ce que je dis, mais quand même, je crois que le choix, choisit-on vraiment? Et ce qui est assez beau, c'est que c'est quand même quelqu'un qui veut écrire le roman de sa vie, Camille, et puis à la fin, elle regarde ces deux hommes dans cette maison qu'ils vont laisser, à une autre habitante. Et
la maison de famille.
La maison de famille, aussi, parce que ça aussi, c'est un des personnages principaux, cette maison, comme chez Colette, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que ce sont les maisons qui nous habitaient pas.
Proust aussi, ouais. Oui, enfermé oui, pendant des années à écrire
les
la
14 dernières ouais. années de sa vie, de 1908 à 1922, soyez précis.
Des chiffres, monsieur, des chiffres.
J'ai un truc de chroniqueur.
Les deux premiers épisodes seront diffusés ce jeudi soir. L'intégralité est déjà disponible sur arte.tv. C'est important que ce soit sur Arte aussi, parce qu'on est dans un tempo et dans une beauté qu'Arte peut se permettre, ce qui ne serait peut-être pas le cas d'une plateforme...
C'était mon désir le plus cher. Et puis, quand j'ai rencontré la productrice, j'ai dit c'est Arte ou rien. Puisque je savais qu'il n'allait pas me demander de disparaître en tant que réalisateur auteur. C'est un peu présentieux, mais bon, c'est comme ça. Mais qu'ils allaient au contraire me demander d'apparaître tout le temps. Parce que c'est ce qui fait quand même la différence. Aujourd'hui, bon, il y a des tâcherons de la mise en scène qui voilà, c'est un peu le modèle des États-Unis pour les séries où de toute façon, le nom du metteur en scène est complètement délavé. Mais bon, moi, j'ai essayé de faire autrement. Mais je me sens pas réalisateur non plus. Je me sens, je sais pas, quand je regarde les acteurs, une table, une plante. Mais par contre, je voudrais juste parler de Lucas Bravo. C'est possible?
Non, c'est moi qui vais le faire. Lucas, quand vous passez d'une série mondialement connue comme Emily in Paris à cette série des saisons, on a deux spectres totalement différents, sûrement deux demandes extrêmement différentes aussi dans votre manière de jouer, d'interpréter, et où on a l'impression que c'est l'extérieur qui compte dans Emily in Paris, alors que là c'est plutôt l'introspection et ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de scènes que vous avez où vous êtes totalement bouleversant en n'exprimant aucun autre sentiment qu'un regard, qu'un sourire et quelques larmes. C'est la différence du travail de Nicolas Maury et des Américains ?
Oui, c'est vraiment le réalisateur qui apporte sa signature. Mmh. Nicolas, il est venu me chercher. Je dis souvent, j'ai l'impression qu'il m'a rencontré avant que je me rencontre. Je suis arrivé sur le tournage, je m'attendais pas du tout à la transformation qui allait s'opérer. Et il m'a permis beaucoup de choses. C'est vrai que sur les gros formats américains comme ça, c'est un peu l'usine. Donc, on peut pas changer le texte, on peut pas changer de mouvement, on peut pas apporter beaucoup de propositions.
Est-ce qu'on peut décider de la manière dont on joue le personnage?
Non. Même de la tonalité, de tout, il y a une idée précise, il faut la suivre, il y a une recette, il faut pas trop la changer. Et c'est vrai que Nicolas, il m'a vraiment permis d'atterrir en moi, d'avoir des gestes de vie,
Est-ce que vous êtes allé chercher un jeu que vous ne soupçonniez pas chez vous?
Je pense que je soupçonnais une certaine mélancolie, une certaine cassure, et lui m'a autorisé vraiment. Il m'a dit, c'est ça qu'on a besoin de voir. On a besoin de voir plus d'hommes comme ça, de permettre aux hommes d'être complètement brisés. Et en fait, c'est devenu thérapeutique. Ça me fait du bien. Ces scènes comme ça où je me suis rendu compte que vraiment, juste avec un regard, juste en habitant cette tristesse et cette cassure, ça véhiculait quelque chose, ça m'a fait un bien fou et j'ai complètement plongé dans
nous aussi, puis en très peu de temps, Valmont d'ailleurs, vous avez un regard de serpent,
pour de pas prédateur. Dire
ouais, c'est ça, de vipère, quelque part. Non, vous êtes le méchant, finalement, le salaud, oui, où en un regard.
Il y a un moment, il sera sympa avec vous.
Ça vient tout de suite.
Oui, il va pas vous insulter. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, et puis après, les larmes, c'est-à-dire qu'on a juste envie, un peu à l'image de votre rencontre là-haut sur la montagne, de vous prendre dans les bras et de dire faut pas pleurer quoi, on peut comprendre l'émotion qui vous fait déborder, mais c'est absolument bouleversant. Et je le dis encore une fois, nous entre Emily in Paris, Valmont qui s'appelle pas Merteuil, Valmont,
Merteuil,
mais vous incarnez Valmont et de l'autre côté, pardon,
mais je prends.
C'est
Vincent Lacoste
qui fait Valmont. Ouais, voilà. Non, lui, Lucas Bravo joue le méchant dans cette histoire, le prédateur. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se demande si c'est pas lui qui est ballotté justement et l'objet des délires ou de la méchanceté. Ça sera à vous de choisir, mais en tout cas, ça va réveiller beaucoup de choses en vous, extrêmement agréable, extrêmement délicate.
Je tournais.
Plus jamais vous m'interrompez quand je parle. Je dois regarder le début. Tant que j'ai pas fini.
Pardon,
phrase,
non, mais arrête. En plus, il a peur. Tu seras le but.
Non, mais il plaisante comme
moi. On se connaît depuis très longtemps.
Oui, mais
trop longtemps, c'est ça que j'ai
trop. C'est pour ça qu'il faut répondre. Il faut y aller. C'est
sympa. S'il y a bien un mec qui peut se remettre un truc autour de sa table, c'est toi.
Ce qui est très. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la. Ce que vous disiez, je sais pas si à la radio vous voyez.
Ouais, on se vous voit.
Ce que vous disiez par rapport à aussi. saison et à Gercourt, c'est que
le comte de Gercourt,
c'est que je tournais les deux en même temps et d'un jour à l'autre, je devais switcher entre le sociopathe pervers et retourner dans cet homme brisé. C'était vraiment une fin d'année assez particulière en termes de bipolarité.
Parfait. Les saisons à partir de jeudi donc sur Arte. Tout de suite, voici Bruno Pecky. Parce que oui, vous n'auriez pas écrit une histoire d'amour à trois comme ça, vous.
Oula, non, alors pas du tout. Déjà, quelle idée de faire un film qui se passe sur 30 ans au Sable d'Olonne. La ville où l'activité la plus connue, c'est quoi ? Partir. Ah oui, c'est là que part le Vendée Globe, quoi. Des gens qui préfèrent partir tout seuls sur un bateau pour faire le tour du monde et risquer de crever plutôt que de rester au Sable d'Olonne. Non, et puis pour Lucas Bravo, quoi. Après, Émilie in Paris, voilà Camille in Seine-d'Olonnaise. Je n'aime pas cette ville, un nom en anglais. Non, mais Nicolas et Lucas, pensez à votre carrière un peu. 10% pour l'un, Émilie in Paris pour l'autre. Maintenant, c'est quoi ? Les Sables d'Olonne, quoi. Tu sens qu'on est passé de Netflix à Arte, hein. Et je ne veux pas porter la poisse, mais normalement, c'est dans l'autre sens, les gars, quoi. On a déjà hâte de vous recevoir pour votre prochain grand projet qui sera un court-métrage d'un étudiant en cinéma. Alors après, Nicolas Maury, ça ne vous fait pas peur. Hein. Rien ne vous fait peur, d'ailleurs. La preuve avec votre rencontre avec Lucas Bravo, vous l'avez raconté, mais je vous cite littéralement, vous avez dit « J'ai rencontré Lucas en haut d'une montagne en Italie. Je suis arrivé en haut de la montagne, j'ai eu le vertige et je me suis mis à pleurer. » Mais pauvre Nico, quoi, vous rendez compte ? Le mec va faire de l'alpinisme dans un autre pays hein, pour se changer les idées du boulot et des tournages et arriver en haut. Coucou Nico, moi c'est Lucas, j'adorerais jouer dans ta série. C'est pas une coïncidence, c'est un stalker en fait. Bon, pour revenir à la série, elle raconte, on l'a dit, des relations amicales et amoureuses à 10 ans d'intervalle au fil de 4 saisons et chaque épisode a sa saison. Bon, au moins c'était le dernier moment pour la faire. Bah, avec le réchauffement climatique, dans 10 ans, la série elle aurait eu 2 épisodes. Quoi. Niveau 4 saisons, il restera que Vivaldi et les pizzas. Quoi. D'ailleurs, super idée le titre, hein, pour bien compliquer les discussions. Quoi. Chez Arte, ils doivent vous détester. Alors on va commencer par une saison des saisons sur 4 saisons. Si ça marche bien, il y aura une deuxième saison des saisons. Quoi. Dans les bureaux d'Arte, ils sont dans le même état que Nicolas Maury en d'une montagne. Il hein. n'y a pas que le titre que j'aurais fait différemment. Moi, j'aurais rien fait sur un triangle amoureux.
Voilà. Ah bon ?
3, mais non, c'est le pire chiffre, 3. Troisième Reich, troisième guerre mondiale, troisième sexe. Bon, pas le meilleur album d'Indochine. La ville de Troyes. D'ailleurs, comment on appelle un plan à Troyes ? À Troyes. Un plan à 9 ?
Joli.
Bon, il va avoir quelques notions de mathématiques. Hein. De là, je t'explique pendant les infos.
Plan au cube.
En plus, dans votre série, c'est pas exactement un triangle amoureux, car il y a aussi la copine du personnage de Martin, mais qu'on voit moins. C'est donc un plan à pi. 3,14. Bon, Olaf, on va peut-être aller manger ensemble après. Faut qu'on prenne le temps que je t'explique tout ça. Non, en fait, ce que j'aurais vraiment fait différemment, ce sont les acteurs. Je suis désolé, mais on les suit sur 30 ans. Et donc, à chaque épisode, ils sont censés avoir pris 10 piges.
Ouais.
Sauf qu'ils sont toujours magnifiques. Mais non, mais les deux mecs, ils ont toujours autant de cheveux, quoi. Pour y croire, il aurait fallu commencer avec moi. Et dans le dernier épisode, finir avec Daniel Morin. Là, on voit le temps qui passe.
C'est crédible, là.
Bah oui. Ah bah alors c'est vrai, il y a quelques petits cheveux blancs, mais pas une seule calvitie, quoi. C'est pour vivre comme ça, j'achète, hein. Et 30 ans qui passent sans prendre de coup de vue, le seul qui trouve ça réaliste, c'est Nagui, quoi. Bah quoi, je vois pas le problème. Ah, moi, faut que je me confie, moi, devenir chauve, ça me fait super peur, quoi. J'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit, je pense, qu'en tant qu'homme, voilà, ça traduit une peur de vieillir et de plus correspondre aux critères de beauté que la société m'impose, mais bon, tu dois pas comprendre ce que c'est, hein, t'es une femme. Elle a été gentille, elle m'a rassuré, je lui ai demandé s'il y avait des chauves qu'elle trouvait beaux, elle m'a dit oui. Et je lui ai demandé lesquels, elle m'a dit oui. Non, en vrai, elle m'a dit des noms, elle m'a dit genre Jason Statham, Vin Diesel, The Rock. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont pas que chauves, quoi, ces mecs-là. Non, mais j'ai testé, hein. Je lui ai montré des photos d'autres chauves. Elle a pas autant kiffé Édouard Philippe. Hein. Bref, pour revenir à la série, elle parle surtout du temps qui passe et on se pose forcément cette question, où serais-je dans 10 ans ? Et on peut pas le savoir, hein. Par contre, on sait où on était il y a 10 ans. Lucas, il y a 10 ans, vous veniez de jouer dans le film La Crème de la Crème de Kim Chapiron, qui vous a dit lors du premier jour de tournage, tu colles trop bien avec le rôle, t'as une vraie tête d'enculé. Et bah, ça doit être un magnifique souvenir, ça, Lucas. Nicolas, vous, il y a 10 ans, vous faisiez évidemment 10%, hein, et vous a même proposé à l'époque de faire un one-man show, mais vous avez refusé car, je cite, le rire est devenu un peu bourgeois et de droite. Alors que pas du tout, regardez Daniel Morin, un vrai altermondialiste marxiste déconstruit. Mais bref, assez parlé du passé, concentrons-nous sur le présent. Et la seule chose à faire, c'est d'aller regarder la série Les Saisons.
Yes.
Sauf si vous êtes au Sable d'Olonne, là il faut juste partir.
Bruno Pecky sur scène à Paris à partir du 29 janvier et à Jean Anto en Suisse le 7 février.
Cette chose-là, il faut que tu te vives. Mon premier, c'est le désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Oh.
Ça décline un peu aussi les paroles. Désir, plaisir, souffrir. Il manquerait peut-être une quatrième saison dans cette histoire, mais c'est ce qui vous a donné envie de prendre cette chanson, parce qu'elle est bien choisie. Mais...
Oui, oui, parce que, je sais pas, c'est la vertu de ce genre de chanson. Ça parle d'une chose infiniment petite et ça parle à tout le monde.
Ouais. Et puis surtout, vous la faites pas simplement entendre, en fait. Vous la mettez en scène.
Ah, c'est beau,
c'est très beau. Ouais. C'est très beau, parce que c'est pas juste comme ça, décoratif, ou pour souligner éventuellement une situation. C'est interprété, en fait.
Ouais.
Et la musique du film, Adrien Gallo.
Oui.
Très belle musique. Ouais. Alors, on va préciser une chose, c'est que dans les premiers épisodes, le premier épisode, vous n'y êtes pas, Lucas, c'est Félix Nobel qui joue votre personnage d'Alexandre. Et pareil pour Abraham Wepler, c'est Johan Brezo qui l'interprète. Et Marisol Fertard joue le rôle de Camille, puisqu'on est vraiment dans l'enfance, la jeune adolescence. Et que c'est seulement plus tard que les personnages sont incarnés par Stéphane Caillard, Abraham Wepler et Lucas Bravo. Lucas est notre invité, Nicolas Maury aussi, jusqu'à midi et demi. Voici tout de suite Camille Lavabre.
D'accord.
Quand vous n'étiez pas prêt, peut-être, non?
Si, on est prêt. On va faire une petite chanson aujourd'hui. Voilà, je règle un peu mon casque et Hold the Love, c'est quand tu veux. Ah ouais.
C'est accordé là.
Donne-moi ton cœur, mais pas ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une sale conne, like you. Pour essayer de changer le monde, sale conne, like you. Bad girl, tu sais que tu me plais, sale conne, like you. Hey, hey. Grâce aux sale connes, je revis. Elles redonnent foi en la vie quand les mal m'ennuient. Elles savent régler mes soucis parce que malgré tout ce qui se passe, elles savent garder la face. Venez chez moi, on relit tous les pantés à l'ini et puis on se réécoute le dernier album de Clara Luciani. Et c'est cette belle sororité qui s'installe quand on est tout ensemble et qu'on brille sous la même étoile. Leïla, t'es un soleil et ma t'es arménienne, c'est pareil. Ensemble, on est fort, on est des boss lady. Donc allons demander tous une augmentation à Nagui. Donne-moi ton cœur, mais pas ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une sale conne, like you. Pour essayer de changer le monde, sale conne, like you. Hey, et mater une sale conne, Leïla aussi. Bruno Daniel, même toi Nagui, y'a que des sales connes ici, sales connes ici.
Sales connes, oui. Attends, et moi aussi je veux bien être une sale conne. Hein.
Ah bon? Ah mais toi aussi tu voulais? Ah pardon, j'avais pas compris.
Évidemment Camille.
Bah bon, mais trop cool, bah alors toi aussi t'es une sale conne. En plus ça tombe bien parce qu'on s'est dit qu'on allait toutes reverser, enfin toutes et tous reverser la moitié des bénéfices de nos spectacles à des associations féministes, donc tu nous suis?
Donne-moi ton cœur,
baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby. Ta soul, baby. Chante avec moi, je suis une sale conne, like you. Bad girl, tu sais que tu me plais, sale conne, like you. Hey, donne-moi ton cœur, mais pas ton corps, baby. Pour leur faire un gros fuck à tous ces chiens, ces abrutis. Chante avec moi, je suis une sale conne, like you. On va tenter de changer le monde, sale conne, like you. Hey, 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 hey.
Joli.
Merci.
Camille Lavabre, accompagnée par Hold the Love.
Elle a tous les talents.
Sur scène.
Mais elle est sur Netflix en ce moment dans French Lover, Camille Lavabre. Merci.
Très bien. Cette histoire des saisons, cette histoire d'amour à trois, mais surtout étalée sur les 30 ans. Est-ce que c'est compliqué de jouer d'ailleurs la durée, au-delà du maquillage, du vieillissement qui a été fait, mais jouer la maturité? Lucas Bravo.
Ah, c'est une bonne question. C'est Nicolas qui nous a vraiment, qui a été chef d'orchestre de ça, qui nous a vraiment amené dans les différentes époques Je crois pas qu'on ait filmé parce que, dans l'ordre d'ailleurs.
Non.
Parce que d'une période à l'autre, Nicolas, il y a 10 ans qui donc s'écoulent et donc il y a forcément d'autres histoires qui viennent alimenter, étayer et construire les personnages.
Oui, et j'avoue, enfin, personne n'en parle autour de cette table, mais je joue dedans aussi.
Bah bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Vous êtes un mari.
On n'en parle pas parce que
moi, en hétéro, on n'en parle pas.
On n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on veut pas vous gêner.
Non. C'est de la drague.
Non, oui, vous êtes le papa qui même d'ailleurs autorise son fils à être homosexuel d'ailleurs.
Ouais. Il lui dit, mais ça va, on a compris, t'es pédé, on est de gauche, c'est cool.
C'est ça, c'est ça. Mais lui aussi, il change de coupe de cheveux, de moustache.
Mais
ça, ce sont les accessoires. Moi, je parle du jeu de la mentalité, c'est pas uniquement le maquillage.
C'est difficile à nommer ce que vous demandez, parce que moi, je crois que c'est, en plus, ma thèse, entre guillemets, c'est que le cœur ne vieillit pas. Enfin, j'espère.
Non, mais un couple, oui, peut vieillir. Et c'est là, c'est là où ça fonctionne.
Bien sûr. Mais le courage, normalement, le courage qui vient étymologiquement du mot cœur, ne vieillit pas, je crois, chez l'être humain. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Et donc, le courage de se séparer, par exemple, le courage de continuer à aimer malgré les adversités, et puis de ne pas faire de l'autre sa petite marionnette. Il faut avoir du courage pour ça. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Pardon, parce que. Et puis je voulais pas trop en faire non plus sur les prothèses, les bouts d'escalope de dinde là qu'on met là pour montrer, parce que je trouve que c'est souvent
pour montrer le vieillissement.
Non, mais je veux dire c'est souvent un petit peu ridicule. Ouais. De réfléchir à est-ce qu'il justement il a une calvitie ou est-ce qu'il a un goitre. Bon.
Ah ouais, sympa.
mais je crois que.
Pardon, hein, on peut être vieux sans avoir tout ce dont vous parlez. Hein.
Vous êtes redressé comme ça.
Bah oui, je fais attention. Attention à ce que rien ne dépasse.
Non, mais je sais pas, c'est une histoire de.
L'histoire de ta vie.
Ok.
Non. Bon, voilà, ça tire à balles réelles.
La suite de la phrase demain. On reviendra pour finir cette phrase. Les saisons, c'est sur Arte. On va parler. Justement de la manière de vivre ou la complexité de vivre des relations à trois, que ce soit en amitié comme en amour, avec Sophie Brown qui sera notre invitée tout à l'heure. Mais la musique, justement, dans cette série, la musique est portée par Adrien Gallo, qui, comme vous, est à la fois acteur et musicien et chanteur. Nicolas Maury, on va évoquer votre carrière et la musique chez vous. On va commencer fin des années 80, vous écoutiez. Et c'est Paradis qui fait un point commun avec Adrien.
Oui. Oui.
Pourquoi cette musique ?
Ouais, pourquoi ?
Parce que Vanessa, c'est ma fée, c'est celle qui m'a fait grandir, voyager dans ma chambre. C'était une personne très clivante à l'époque et pour moi, c'était mon parti politique. Je l'aimais, voilà, et j'ai eu la chance après de jouer avec elle dans un film. C'est fou, Vanessa, pour moi.
Ouais. Et vous découvrez le théâtre à cette époque-là ?
Exactement, c'est l'époque du divorce de mes parents. Donc, j'ai 11 ans et j'ai lu une biographie de Jenna Rollands qui est pareil, à 11 ans, ses parents se sont séparés, donc c'est cette espèce de cellule qu'on croit rêver, et tout à coup,
tout s'affaisse,
et puis voilà, moi il y avait un petit atelier de théâtre, et j'y suis allée.
Dans ces mêmes années 80, fin des années 80, Lucas Bravo.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour.
Choix étrange pour parler de votre naissance. J'aimerais mourir et je ne t'aime plus.
Je sais pas, ce son, je l'entendais tourner, ça me rappelle
votre enfance.
Ouais. Ouais, ça me rappelle les débuts à Maul, les débuts de mon père au Paris Saint-Germain. J'entendais cette chanson souvent tournée. Je ne sais pas qui l'écoutait, mais elle me rappelle beaucoup de souvenirs.
Votre père footballeur, Daniel Bravo. Votre mère aussi, Eva Bravo.
Footballeuse également.
Footballeuse également.
Avant-centre. Belle amortie poitrine.
Joli.
Pardon, Eva.
Toi, tu peux.
Et vous déménagez donc en vrai. Vous déménagez en vrai d'être enceinte. De votre père, en fait. Pardon, dépouillez-vous.
Faut que je rebondisse là-dessus.
Ouais, c'est okay.
Allez-y.
C'est ça. Fils de footeux, on se rend pas compte de la vie que ça implique.
Oui, c'est beaucoup de souvent transféré. Du coup, à chaque fois, il faut se réinventer dans chaque ville. Ça a l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire que on se sent un peu déraciné, on a vite envie de perdre le statut du nouveau, donc on porte un peu des masques pour se fondre dans les dynamiques de groupe. Mais en même temps, ça permet d'avoir un recul sur les microcosmes et voir ces petits problèmes de tous les jours.
Et grandir avec les cultures étrangères aussi, parce qu'on parle de Nice, on parle de Paris, mais aussi de l'Italie.
Et Parme en Italie, oui. Ouais. Et en plus, on est une éponge. À cet âge-là, j'avais 8 ans, l'italien qui est rentré d'un coup comme ça, sans accent, sans rien. C'est culturellement, c'est super intéressant.
Que vous parlez toujours l'italien, une de vos langues entre guillemets
en date, je fais ça.
Ça marche tellement. On imagine.
Ciao belle.
On
sent que vous avez besoin de ça pour séduire. Hein. Il faut trouver ça.
Mais c'est nécessaire.
Ouais, c'est ça. En 2003-2004.
Je laisse fou le camp tout au long des poèmes. Et d'une rime à l'autre, elle va bras ballant.
Cette Françoise Hardy, cette chanson, Nicolas Maury pourrait être dans la BO des saisons.
Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé qu'après 20 ans, on était déjà mort. Et donc, c'est vrai que
sinon, ça va.
On était déjà vieux, voilà. Mais c'est bien d'être vieux. Merci. Mais donc, il n'y a que des vieux, tout ça.
Ouais, voilà. On vous retrouve au conservatoire. Petits,
ouais. Vous avez moins de 20 ans?
Non,
plus. Ah ben voilà, vous êtes vieux.
On vous retrouve au conservatoire.
Par contre, là, voilà, la jeunesse.
On vous retrouve à cette époque au conservatoire, Nicolas. C'est une maison, j'imagine, un peu codifiée, où il y a des règles. Comment vous êtes senti dans cette institution?
L'image de tout mon chemin, comme je dis souvent, le théâtre, par exemple, c'est ma maison qui brûle. Donc c'est à la fois ma maison et à la fois elle me brûle, elle doit me brûler, sinon je m'ennuie. Mais c'est une maison qui m'a... C'est sublime parce que pendant 3 ans, c'est pas une maison... Les acteurs, souvent, ils pensent que c'est avoir une personnalité qui est intéressante. Alors c'est quand même avoir... apprendre des choses plus grandes que soi, une technique, par exemple, le conservatoire m'a permis ça.
Lucas Bravo, vous écoutiez Nick et 3D.
Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire.
Est-ce que c'est le message écolo de cette chanson qui vous touche?
Oui, je trouve que le message... mes parents ont toujours été super responsables et présents, vegan, toujours quelque chose tourné vers l'écologie. Et cette chanson...
Et le respect des animaux,
oui. Oui, oui. Comme vous, Nagui.
Mais moi, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le formuler. Non, c'est vrai, je ne l'ai jamais dit, mais c'est Eva, votre maman.
La mortie poitrine.
Pas Jeff.
Des années et des années m'a éveillé à la souffrance animale et c'est grâce à elle que je suis en effet végétarien et je l'en remercie.
Et à cette époque-là, Lucas, vous prenez vos premiers cours de théâtre. Je crois qu'il y a un rapport avec quand même Kevin Costner, Danse avec les loups, qui a été décisif.
Oui, ça a été ma preuve. Mais c'est ma mère, je crois, qui m'a montré Danse avec les loups et ça a été un chamboulement. Quoi. Ouais. Je pense que ça me parlait parce que c'est l'histoire de ce mec qui va vivre avec les Indiens et qui décide pendant la guerre, avant que la séparation disparaisse, avant que le continent se dessine. Et plutôt que d'imposer sa mentalité américaine, il décide de se fondre dedans. Et ça s'intégrer, me parlait un peu avec moi, le fait qu'on déménageait beaucoup.
Ah oui, bougez, oui.
Et j'ai adoré. Et puis après, derrière, c'est quand même, il réalise, il a l'écriture.
Ouais. Il est bon.
Prend 7 Oscars, je crois. Je me suis dit, bon, c'est intéressant.
En 2014, Nicolas Maury, vous écoutiez.
Bon, un peu clivant.
Kanye West, quand même, très clivant.
Bah oui, pardon, voilà.
Quoi, pardon?
À l'époque, je suis un salaud. Et je pense comme lui. Et là, de buzz à fond. Et j'ai fait les saisons.
Et j'ai fait
les saisons. Mais c'est forcé à faire les saisons.
Et j'étais dans les soirées de Puff Daddy.
Alors. Bah, vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Regardez.
À cette époque-là, vous êtes dans 10%, Nicolas. Le premier épisode diffusé en prime time a rassemblé quasiment 5 millions de téléspectateurs. C'était complètement énorme. C'était une vague qui arrivait sur la télévision française.
Il n'y a que 10 ans.
Vous incarniez le seul personnage aussi gay à heure de grande écoute à la télévision. Et ça, c'est pas rien.
Ça, c'est pas rien. Avec Camille Cotin, nous étions quand même les pionniers.
C'est-à-dire aussi gay.
comme ça.
Ok. Ah, je l'ai compris différemment.
Ah, oui, non, pas aussi gay. Non, gay.
Ah, d'accord, ok.
Tellement gay.
So gay.
En fait, je suis de moins en moins gay, ça me fait peur. Je vous assure, j'ai un hétéro qui pousse tout le temps, tous les jours. Et non, oui, c'était fou. Et surtout, ce qui est fou, souvent, bon, les acteurs en font, ou actrices, mais acteurs, en font beaucoup sur l'implication, l'engagement, etc. Je trouve qu'il y a un engagement qui est le plus beau, c'est d'autoriser les autres à être ce qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils peuvent, et sans prérequis, sans injonction. Mais quand vous avez des enfants de 14 ans qui vous écrivent de Brésil, Bangladesh, etc., et qui vous disent, grâce à vous, mon papa, qui adore la série, m'a dit, arrête de faire ton Hervé à table, en rigolant, et que ça fout un peu les frissons, parce que, voilà, tout à coup, cette représentation-là, cette je dirais même cette présentation de, ouais. d'un personnage comme Hervé qui est un peu voilà qui pousse un peu les lignes voilà ça aide les autres et ça j'en suis très fier.
On va rendre à Clara Scheller aussi son existence parce que c'était quelques années avant dans Clara Scheller.
Arrêtez de me minimiser Nagui.
Et où il y avait justement une histoire d'amour à trois dont on va parler dans quelques instants. Lucas Bravo, vous écoutiez-vous dans ces années 14 2014? À quel moment vous écoutez la musique d'ailleurs? C'est pour vous mettre dans la peau d'un personnage ou juste pour le plaisir de d'avoir des écouteurs et
Je le fais je vais beaucoup marcher quand j'ai rien à faire. Okay. Je vais beaucoup marcher dans la rue avec des sons que j'adore. Je trouve qu'il y a rien de plus thérapeutique.
Et vous avez une BO par rôle que vous incarnez?
Oui. À chaque personnage, je crée des bulles de sensations avec playlist, parfum et un animal pour la physicalité.
Playlist, parfum et animal.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, de créer des bulles de sensations, en fait, ça permet de revenir à des personnages facilement. Pendant que je travaille, j'écoute, comme vous savez, comme les sens, parfois goûter quelque chose, sentir, ça nous ramène à des souvenirs d'enfance. Quand je pré-travaille un script, j'ai un parfum pour chaque personnage, je crée une playlist, et pendant que je travaille, je suis dans ces sens-là.
Donc entre deux rôles quand vous passiez de
spécialement pour ça ouais
du conte méchant de Mertin aux saisons vous changez de parfum.
Ouais, exactement. D'accord. J'ai écouté la playlist.
Et là on en arrive à Kim Chapiron et à ce compliment révélé par Bruno.
C'était un compliment pour lui. Hein.
Oui, bah ouais, j'imagine.
Vous veniez enfin vous arrivez au casting, c'est ce qu'il vous dit ou?
Non, c'était on venait de tourner et je le recroise plus tard. Il me dit ça y est, j'ai vu les images, c'est génial. On aurait envie de faire un film que sur toi. T'es une vraie tête d'enculé. Merci.
Je prends. Sophie Brown nous a rejoint. Bonjour, madame. Bonjour, merci bonjour. D'être à ce micro. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Nous parlons de l'amour à trois dans les saisons. L'amour à trois, c'est l'idéal ou c'est l'enfer?
L'amour à deux.
Je n'ai qu'une question.
Ça, votre question.
Je n'ai qu'une question.
Elle a craqué.
C'est-à-dire que c'est vraiment la question profonde de l'être humain. Je trouve que l'amour à deux, c'est déjà pas très facile.
Ouais, c'est sûr.
Alors, l'amour à trois, je pense que c'est pas ou plus difficile ou plus facile. Ça pose d'autres questions. Ce que j'ai trouvé très joli dans cette série, mais aussi d'une façon générale sur ces questions, c'est qu'en fait, ça nous interroge sur ce qu'on vit. Et c'est vraiment le plaisir de notre époque, c'est de nous poser des questions sur ce qu'on vit qui nous semblait si évident avant et qui en fait ne l'était pas. C'est-à-dire le couple qui va durer toute la vie, qui n'a jamais fonctionné en fait, parce que la monogamie, en réalité, ça n'a jamais vraiment marché. Pas très longtemps.
Bien, Daniel.
Ouais. Ça fait pas très longtemps.
C'est la société de consommation qui nous pousse à ça.
Il y a ça.
Bah, évidemment.
Et puis en plus, c'est l'émancipation des femmes. Ah, c'est quand même terrible.
Quelle sale conne.
C'est aussi les normes sociales. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des institutions, le mariage devait tenir, l'église faisait que le mariage devait tenir. Voilà. Aujourd'hui, il y a une question d'héritage aussi, hein, d'héritage paternel. Mais aujourd'hui, c'est un choix de rester ensemble. Et rester ensemble, effectivement, avec l'allongement de la durée de la vie, le fait de choisir, c'est évidemment beaucoup plus éthique. Et ça pose la question des valeurs personnelles. Mais ça nous interroge sur ces valeurs-là.
Est-ce qu'on peut aimer deux personnes? Ou est-ce que, justement, c'est quelque chose qui n'est pas concevable?
Alors,
quand on est parent, on dit que l'amour se multiplie, ne se divise pas entre les enfants.
C'est Victor Hugo.
Et oui, absolument. Oui. Et
bien sûr.
Et lorsqu'on est en couple, c'est l'inverse.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, pardon Nagui, c'est que
je vous prie.
En fait, aujourd'hui, on est tout à fait d'accord pour penser qu'on peut aimer plusieurs personnes à tour de rôle. On divorce, on divorce ou on se sépare.
Non, moi je parle en même temps.
Voilà.
Temps.
Et on, oui, mais alors.
Tant que ça nous est pas arrivé, on peut pas savoir en fait.
Voilà. Donc ça, la première question que ça pose, c'est pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut aimer des gens différents successivement et pas forcément en même temps.
Ouais.
Je pense que ce que ça joue, c'est la question de l'unicité. En fait, ce qu'on aime aussi dans l'amour, c'est qu'on est unique pour quelqu'un. C'est que on est merveilleux, exceptionnel, et on est choisi par cette personne. Si on commence à être trois, eh bien, on n'est plus aussi unique. Et ça, on a du mal dans notre ego à penser que effectivement, on n'est pas cette personne qui peut tout combler.
C'est pas reposant plutôt de dire qu'on n'est pas tout seul à assumer.
Suivant.
Non mais parce que
moi j'y vais pas. Vas-y.
On peut se sentir complètement à la hauteur et combler l'autre seul. C'est quand même un truc un petit peu mégalo, non? D'imaginer que seul on peut combler une autre personne.
Bien sûr, c'est un peu mégalo, en tout cas, c'est bien sûr, mais on est un peu tous jusque-là élevés là-dedans. On va rencontrer quelqu'un et on va représenter tout pour cette personne.
Mais attention, dans le sujet dont on parle, il s'agit d'aimer pas les trois en même temps. C'est pas un trouple. C'est pas les trois qui s'aiment en même temps dans le même lit et dans le même foyer. C'est une sorte de jalousie et d'ego plutôt.
Oui, alors la question de la jalousie, elle est vraiment fondamentale dans cette question, effectivement, d'aimer deux personnes en même temps.
C'est ce qu'on ressent dans la
bien sûr.
Série, ouais.
Alors, la jalousie, c'est beaucoup d'insécurité. La jalousie, c'est la question de l'insécurité. Pour pouvoir vivre...
Et de la confiance.
Et de la confiance, absolument.
Je ne suis absolument pas d'accord avec ça.
Allez-y.
La jalousie, quand on a lu Proust, quand on a lu Barthes, c'est quand même aussi une demande de considération. Quand Phèdre dit « vois toute ma fureur » et quand tout à coup c'est une demande à l'autre, c'est justement se mouiller, quoi. C'est justement... alors après, il y a la jalousie maladive. Il faut faire attention parce que moi, j'ai fait un premier film là-dessus, Garçon chiffon, pour justement enlever tous ces trucs. C'est pas que l'amant dans le placard du théâtre de boulevard. Par la jalousie. C'est parfois vraiment, oui, c'est ça, c'est ce que disait du reste Barthes sur les tentatives de décontraction qu'il y a eu dans les années 70 avec les hippies. C'est-à-dire que tout à coup, on fait semblant que tout est OK. En fait, il y avait aussi énormément de complexité dans cet amour pluriel.
Absolument. Tout ça, ce sont des tensions. Hein.
Oui.
Je crois que vous le dites très bien. C'est-à-dire, un peu de jalousie, c'est normal, enfin c'est normal, et on doit le vivre dans le couple. Trop, quand ça devient pathologique, effectivement, ça met en péril le couple. Et on est toujours dans des tensions très compliquées. Les tensions à trois, c'est pas les mêmes que les tensions à deux. Voilà. Mais ça, y a quand même cette question. Pour des gens, en tout cas, on peut le dire comme ça, en insécurité, qui vont assez vite tomber du côté de la jalousie pathologique... Moi, les gens que j'ai pu recevoir qui... était dans le polyamour, il y avait des gens qui le vivaient très très bien, vraiment, et tous. La question, c'est que c'est pas forcément toujours partagé, et certains acceptent de se soumettre pour d'autres. Mais c'est vrai aussi dans un couple à deux. Hein. Je pense que ça pose exactement les mêmes questions.
Sophie Brown, vous avez signé sur le burn-out, les fatigues chroniques, les phobies sociales ou scolaires, La tentation du repli aux éditions Mot Conduit. Merci mille fois d'être venu à ce micro. Voici Emma Beaujean.
Oh oui, Emma.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, ce mensonge collectif qu'on accepte tous sans broncher. Je rappelle que moi j'ai des troubles du comportement alimentaire, d'accord ? Donc pour moi le calendrier de l'Avent c'est un gros goûter ludique. Officiellement c'est pour faire patienter jusqu'à Noël, officieusement c'est pour m'humilier. Juste pour me rappeler que je suis incapable de tenir une règle pendant 24 jours, même 2 jours en réalité, parce qu'à chaque fois c'est pareil, je me dis bon allez juste une case, oh, puis 2, et puis le 3 décembre je me retrouve à dégommer le 19, le 20 et le 21. Et le pire c'est qu'après je referme les petites portes en carton.
Non,
je referme les... Je vous rappelle que je vis seule. Pourquoi fermer les cases, manger en avance comme si Jésus m'avait pas déjà vu éclater la deuxième quinzaine de décembre? Et vous, et chaque année je continue d'y croire, je recommence. Cette année, ok, j'avoue que j'ai pris un petit calendrier Kinda. Lui c'est un peu la version premium Kinder. Au Franprix, la caissière elle m'a dit, ah ben c'est bien, c'est les enfants qui vont être contents. Bien sûr, c'est pour les enfants, bien sûr. Alors que non, la seule seule chose que, qui fait que cette année j'ai opté pour le calendrier Kinder, c'est que j'ai un salaire. Alors, j'ai aussi appris l'existence des calendriers de l'Avent pour adultes. Attention, pas adultes, non, adultes dans le sens où c'est des calendriers de l'Avent ultra chiants. Par exemple, moi j'ai reçu un calendrier de l'Avent avec du thé. Mais ça va pas ou quoi? Le projet c'est que t'as payé 30 euros et pendant 3 semaines, tous les matins, tu vas boire de l'eau chaude surprise. Oh là là, génial, envie de me faire sauter le caisson perso. Après, je dis calendrier de l'Avent pour adultes, un peu chiant, mais il y a ça aussi avec les vrais calendriers de l'Avent pour adultes en mode grrrr, même fait maison, avec dans chaque compartiment un petit jeu, un petit gage sexuel. L'an dernier, je l'ai fait avec mon mec pour pimenter notre couple. Est-ce que ça a marché? Je vous ai dit que désormais, je vivais seule. C'était un fiasco parce qu'en fait, le 1er décembre, bah, il avait la case bon pour une fellation. Pas mal, pas mal. Après, les autres, je m'en rappelle plus parce que de toute façon, il a passé les 23 jours suivants à me dire, tu veux pas juste me resucer en fait? Il y a un truc que j'aurais pu faire cette année. Merci, c'est pour le public. Il y a un truc que j'aurais pu... Vous allez grandir en sortant d'ici. Il y a un truc que j'aurais pu faire cette année, c'est le calendrier de l'Avent de la bande originale. Chaque jour, un hommage à l'un ou l'une d'entre vous. J'aurais dû faire ça, mais j'aurais fait comme avec les chocolats, j'aurais craqué le 1er jour et j'aurais tout fait d'un coup. Alors, petite propale, et ben, je vous le fais maintenant.
Ah ouais.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à vous tous. Alors, même si elle n'est pas là aujourd'hui, et elle est là tous les autres jours de la semaine, donc je suis obligée de penser à elle, à Lisa Delmoitier. Lisa, merci pour tous les conseils que tu m'as donnés quand j'ai attaqué la chronique en quotidienne cette année. C'est grâce à toi que j'ai su que c'était la pire idée de ma vie. Bruno Pecky, merci pour cette belle nuit qu'on a passée tous les deux. Enfin, tous les deux, tous les trois. Moi, cette photo de toi et mon womanizer. Camille Lavabre, merci pour ta bienveillance, pour ces heures de conversation qu'on a eues ensemble avec des sujets toujours aussi variés. On parlait de Marseille, on parlait de Joule, on parlait de l'OM. Merci pour cette belle diversité. Tanguy Pasturo, merci de m'avoir inculqué la patience. Grâce à toi, je sais que je peux avoir une longue carrière. Et si je veux marcher dans tes pas, plus que 12 siècles à boire du sang de biche en pleine lune. Merci. Oldelaf, merci pour ta générosité. Il faut vraiment le voir partager son sandwich et sa canette de 8-6 le matin avec Capitaine Moustache, sa petite souris qui l'accompagne partout. Nicolas, Lucas, bah, je peux pas faire un tour de table sans parler de vous. Non mais attends, Nicolas et Lucas, c'est quoi ces prénoms? Et puis quoi encore? Étienne et Amaury? Oh, j'ai rien trouvé à dire car je vous admire, vous et vos carrières. Daniel Morin, bah, merci pour le vélo que tu m'as offert pour mes 7 ans. Leïla, merci vraiment pour ton regard sur la vie, toujours précieux. Ce matin même, tu me disais que la vie est un labyrinthe sans plan où la conscience avance en feignant le sens que nous appelons choix, ce que l'habitude a déjà décidé, et liberté, l'intervalle entre ces deux nécessités. Grave dac. Nagui, OMG, ma vie, mon nag. Merci de m'avoir embarqué dans cette belle aventure cette année, même si j'aurais préféré que tu me donnes ton chalet au ski. Et bah oui, c'est important, hommage aux hommages, parce que c'est à peine la moitié de la saison et je me sens déjà nostalgique. Je plaisante, je me sens déjà en burn-out. Et en réalité, je dois vous rendre un vrai hommage à vous tous autour de cette table pour des raisons différentes, chacun et chacune. Vous m'aidez à avoir confiance en moi et mon travail. La bande originale, c'est un des premiers endroits où tout ce que je fais, ce que je suis, ce que je représente, c'est pas trop. C'est peut-être ça les vrais calendriers de l'Avent adulte. Chaque jour se sentir un petit peu plus à sa place. C'est à vous que je rends hommage aujourd'hui.
Merci.
Et bien bonjour, à partir du 3 février, au Le Pic, les mardis à 19h.
Tanguy Pasturo, de quoi allons-nous parler?
De Xavier Bertrand qui est embauché chez Burger King, alors pour 12 minutes en tout, mais bon, il a travaillé.
Soyez bienvenue avec Leïla Cadeau-Poudet.
Bonjour.
Camille Lavabre, Emma Beauchamp, Bruno Pecky, Yann Delave, Daniel Morin, Tanguy Pasturo et nos invités Nicolas Maury et Lucas Bravo. Ah oui,
France Inter.
Lucas Bravo.
Bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Avec cette série Les Saisons sur Arte, à partir de jeudi, les deux premiers épisodes seront diffusés. Jeudi suivant, les deux autres. Pas du tout ?
Tout ensemble.
Le même jeudi, les quatre ?
Oui. Tout d'un coup.
Ah non, je croyais que c'était que, il y en avait que deux qui passaient jeudi. Ok, d'accord.
Soirée Nicolas Maury.
Parfait, très bien. Toutes les saisons en un soir. Et si vous voulez vraiment binger avant que ça passe sur l'antenne, il y a arte.tv pour suivre cette série. Il y a cette histoire donc d'amour adolescente au pluriel entre ces trois personnages qui vont évoluer avec le temps. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui guide par moment les choix ou les doutes, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que Camille est
promenée, ballottée, et elle aime les deux, mais elle ne sait pas pourquoi elle va plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre. En tout cas, nous, on le sait pas. Est-ce que elle, elle le sait ?
Je sais pas. Oui, elle le sait. Je sais pas. En fait, c'est. Je sais pas quoi dire.
Est-ce que vous avez vu la série ?
Quand on a lu Proust.
Pardon, je... Que dit Marcel, ouais, c'est ça. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, de toute façon, dans cette histoire ? C'est intéressant, comme vous allez vous mettre à la...
J'ai rarement des pannes, mais là j'ai une panne, parce qu'il y a tellement de conscience, jeune conscience devant moi. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, non, c'est...
Non, enfin, il faut préciser à ceux qui nous écoutent que
oui,
nous avons
très jeunes gens.
Une vingtaine. Oui, ça, vous êtes en quel cas
Troisième.
Ah oui, c'est le fameux stage de troisième.
Voilà.
Et sincèrement, il préférait être à l'entraînement du PSG. C'est sûr.
Ce que je veux dire, c'est, ouais, que, c'est oui. que c'est pas tellement une femme au milieu de deux hommes qui n'arrive pas à choisir. Ça, c'était très important pour moi, un triangle à trois côtés. Et je crois que, par exemple, Martin, par exemple, dans La Dame de la Mer, dont je suis inspirée, qui est d'Ibsen, que je vous conseille, vous avez peut-être au programme, c'est qu'en fait, il y a toujours l'appel dans un couple, l'appel de l'ailleurs. C'est une femme qui est mariée à un docteur et qui voit au loin passer comme ça un capitaine. Et donc, cette espèce d'appel du large, cet appel de l'ailleurs qu'on ressent en soi, parfois, si on est honnête. Mais, comme on dit, l'herbe est pas forcément plus verte. Et en fait, j'ai voulu mettre en scène surtout les deux autres hommes, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans une histoire quand on aime. C'est que et je crois même que parfois quand elle va plutôt vers Martin, c'est aussi parce qu'il y a un blues du personnage d'Alexandre qui m'intéressait beaucoup, moi, de voir un homme qui traverse une faille, et puis un peu le blues du bel homme qui est docteur et tout ça. Il y a une charge aussi parfois sur les hommes de gérer, quoi, comme on dit. Ouais, moi je gère
d'assurer.
Non, mais même, ouais. Et pour aller plus loin, vous vouliez qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il réussisse,
oui.
Et que justement, comme il a tous les atouts,
bravo,
pour lui,
voilà,
il y ait quand même cette fragilité,
voilà, et quand même, ouais, pas suffisant, parce que c'est pas, on n'a pas 20 sur 20 quand on a, pour son partenaire, enfin. Et donc elle va à ce moment-là vers Martin, et elle se rend compte que Martin non plus, c'est peut-être pas par là que ça va marcher. Et encore une fois, je le dis, elle écrit le roman de sa vie, mais parce que elle s'autorise peut-être à un moment donné à dire pourquoi choisir, quoi, pourquoi. Et si ce serait beau, peut-être une cohabitation, je sais pas, moi j'ai pas, je suis célibataire en fait.
Et puis il y a ces histoires.
Donc Emma.
Cette histoire verticale aussi de filiation, parce qu'il y a, oui, Mado, bravo, il y a Suzanne, il, bravo, y a Camille, il y a la fille aussi de
Romane.
Camille, Romane, oui. Où on voit finalement que les schémas se reproduisent.
Bravo, c'est cet héritage-là qui n'est pas qu'un héritage de choses matérielles, je le pense, mais d'héritage de secrets, de désastres. Moi j'adore ce terme de désastre. Il peut y avoir des désastres magnifiques. Comme on dit, un désastre, c'est un astre qui tombe. Et tout ce qui tombe, ben, moi, je pense que ça se relève. Et je crois qu'on hérite des désastres et des façons d'aimer, malheureusement, pour le meilleur.
C'est peut-être dans notre ADN, sans qu'on s'en rende compte, finalement.
Vous voulez dire dans notre ADN ?
Ouais.
À tous les deux.
Martine Chevalier joue Mado. Géraldine Pellas joue.
Oui, j'adore, continuer. Faut l'acculer comme ça.
Faut le
faire,
pardon.
C'est un verbe, c'est un verbe.
Alors, on a été prof de français, il n'y a que ce mot qui te vient.
Bien sûr, parce que c'est très précis.
Stéphane Keillard joue Camille.
Je sais plus quoi faire.
Et Romane, et j'ai plus le nom d'actrice.
Ben, c'est Marisol Fertard, c'est la même qui joue Camille.
Ah, c'est ça, exactement.
Non, ce que je voulais dire, j'ai oublié. Mais
encore ? Peu de panne.
Non, pardon, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a troublé votre question, et pas que votre question. Non, là, je rigole. Non, c'est-à-dire... En plus, je vous ai dit que j'en parlerai pas, et là, j'en parle à fond. Non, ce qui est important dans la vie, c'est de, par exemple, au cinéma, il y a toujours la mère du personnage ou la femme du personnage. Et je crois qu'il faut arrêter tout ça avec nos années de psychanalyse qui parfois nous font pas du bien. C'est que on n'est pas que, c'est pas la faute de ma mère, la faute. Des fois, sa mère, on la considère comme un petit étang. En fait, c'est un océan, sa mère. Et sa mère, c'est quelqu'un d'autre que sa mère. Et donc, ces femmes sublimes que sont Martine Chevalier, donc la grand-mère Géraldine Pella, Stéphane Caillard et Marisol Fertard, ce que je voulais, c'est tout à coup des points de vue, elles sont hétérogènes, c'est pas que, je suis pas que la fille ou la petite fille. Et j'aime beaucoup parce que, au sens durassien du terme, elles se rencontrent. Et que la rencontre, moi, c'est ce qui m'anime avec une caméra, c'est-à-dire, c'est pas on se rencontre une fois, quoi. On passe une vie, c'est ça l'amour, à continuer, c'est un travail, à se rencontrer. Et je pense que Camille, Alexandre et Martin, je suis un peu énervée là, Camille, Alexandre et Martin passent leur vie à s'aimer en se rencontrant.
Lucas Bravo, est-ce que la manière dont Nicolas en parle avec totalement passion était ressentie sur le plateau, justement dans ses directions, dans la manière dont il vous dirigeait, dont il expliquait finalement les arcanes des acteurs, ou est-ce qu'il savait exactement ce qu'il voulait, il vous disait maintenant joue ça. Est-ce qu'il allait dans cette part de psychologie justement et d'analyse?
Écoutez, quand on a lu Proust, non, mais ça vous donne vraiment
comme il est au quotidien.
Un petit échantillon de ce qu'on était sur, ce que c'était sur le plateau, c'est-à-dire qu'on arrivait le matin et il nous réunissait tous et il nous expliquait ce qu'on vivait, l'atmosphère de l'époque, les enjeux. Et ils nous mettaient tous dans une ambiance. Il y avait parfois de la musique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mélodie sur la, et que nous étions des instruments et on s'accordait à sa mélodie, parce qu'il arrivait vraiment avec sa mélodie le matin.
Dans les mélodies de la série, il y a également. Évidemment, Laurent Voulzy. Il faut que tu te vis au premier, c'est baiser. Mais aussi.
Baccarat.
Trop plaisir de réentendre ce titre. Ouais, non, j'adore, avec les cordes. Les saisons passent donc sur arte.tv en ce moment. Et sinon, jeudi, rendez-vous pour la soirée de ces quatre saisons. Voici Tanguy Passion.
Hélène et Guy, on est pareil, tous les trois au top niveau professionnel. Ici à France Inter, on est parmi les plus anciens quand même. Hein. D'accord, Daniel Nouba, le lendemain de sa naissance, il était déjà à l'antenne pour son émission Le Placentin Show. Mais en plus, on fait partie de l'élite de France Télé. Vous deux sur France 2, moi, ok, sur France 3, Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est pareil, si on retire le budget, et les moyens techniques et l'audience, et le fait que je dois faire moi-même mon café, je suis dégoûté. Qu'est-ce qui a foiré dans cette carrière? Je suis même pas devenu franc-maçon. En fait, je vous explique, je fais une émission où on accueille un ou une politique qui a un lien avec le Nord ou le Pas-de-Calais, donc majoritairement des gens ivres, hein, qui ont de 7 à 9 enfants. L'émission se fait en public à Arras, dans un comédie-club, et je suis chef de bande, comme vous ici. Hier, ça a été diffusé, on avait Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, on a eu aussi Fabien Roussel, Marine Tondelier. Ça a été une émotion forte, pas elle en tant que telle, mais j'ai enfin rencontré sa veste verte. On a aussi reçu Jean-Louis Borloo, belle ambiance, de la bière, des frites et des vannes. Et tiens, à propos de Xavier Bertrand, il sort un bouquin sur lui, de plus de 400 pages. Il a une belle estime de lui-même. Hein. Sur moi, j'avoue que je sortirais à peine un post-it. Et la semaine dernière, il a inauguré un Burger King à Valenciennes. Il reste 300 personnes en France qui n'ont pas encore les artères bouchées à cause de cette saloperie de nourriture-là. Il a dû penser que c'était trop. Donc là, il s'est dit, je vais bosser devant son équipe stupéfaite qui a répondu, vous allez quoi, monsieur? Hein, il n'avait pas de dictionnaire pour chercher les définitions. Et Xavier Bertrand s'est mis à fabriquer un burger. C'est comme un Tetris. Pain, steak, 32 fromage, pain, la tomate, tout ça. Bon, le tout devant les caméras de télé. Ensuite, il a mangé son propre burger. C'est-à-dire que Xavier Bertrand est autosuffisant. Demain, s'il fait pousser ses tomates et fait son pain lui-même, en cas d'invasion zombie, il peut tenir 40 jours isolé dans sa maison. Ce sera le seul à prendre du poids, ce qui fait qu'il sera encore plus tentant pour les zombies. Bah oui, moi demain, je suis zombie, je fais plus la sortie des McDo que celle des restos vegan du 11e arrondissement. Je veux mordre des gens, ce serait mon seul loisir, autant qu'il y ait des poignées d'amour à croquer. Si c'est pour casser ta dernière dent sur la côte d'un bobo dénutri, merci, quoi. Bon, arrivé là, rien de foufou, Bertrand a fait un burger, voilà. Oui, c'est de la com, oui, c'est de l'image, pas la meilleure qui soit, parce que on l'a obligé à mettre une charlotte sur sa tête, un filet, il ressemblait moins à un responsable politique qu'à un thon rouge pris par un chalutier. Et l'autre jour, j'ai pris un taxi, comme tous les taxis, il était sur RMC, j'ai bien sûr sauté en marche, en hurlant d'horreur. Un autre taxi s'est arrêté pour me prendre, et sur le chemin de l'hôpital, il avait aussi RMC. J'ai donc entendu, plus qu'écouté, les grandes gueules. Et il y avait Charles Consigny, vous savez, cet avocat au regard noir et à la moue satisfaite, qui a dit à propos de Xavier Bertrand, on est sur une copie pure de ce qu'a fait Trump. Parce que Trump aussi avait distribué des burgers en pleine campagne électorale. Ses cheveux étant jaunes, plusieurs clients l'ayant pris pour une moyenne frite, avaient tenté de le tremper dans de la sauce de luxe. Mais est-ce que ne voit pas Consigny, qui est jeune, malgré un physique de droite qui aurait pu lui faire connaître la même carrière fulgurante que moi? C'est qu'Obama, avait fait pareil avant. Et il y a longtemps, souvenez-vous, Giscard chez nous était allé dîner chez des Français. Ouais. Et en 2014, Hollande avait invité à dîner à l'Élysée des Français tirés au sort. Les malheureux pleuraient. Le seul dîner que je fais de l'année, il faut que ce soit avec Hollande. Et en 93, Édouard Balladur avait pris le métro à Paris. C'est la première fois qu'une personne prénommée Édouard allait dans le métro. Pour lui, c'était comme un baptême de plongée. D'ailleurs, il avait déclaré « il fait chaud dans le métro ». Hein, c'était en novembre, mais il portait des vestes 100% laine, donc ça revenait à lâcher un mouton douaissant dans un club à Cancun. Charles Consigny, en fait, ne réalise pas que les politiques qui se frottent à la vraie vie. Vous savez, qui tentent le contact avec les vrais gens, c'est vieux comme le monde. Je suis sûr que même Louis le Pieux, parfois, allait s'enjailler avec des gueux à la taverne des Trois Ours puants. Regardez Rachida Dati. Même elle, dernièrement, a fait la tournée avec les éboueurs à Paris en tenue fluo. Elle ressemblait tellement à un stabilo qu'on aurait pu la vendre en papeterie. Elle avait personnellement vidé des poubelles en se disant « c'est donc ainsi que les déchets disparaissent hein, ». Parce qu'avant, elle pensait que les cigognes chaque nuit déposaient des bébés en ville et repartaient avec les poubelles. Et Dati a eu cette phrase « avec moi, Paris sera propre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ». Le genre de truc qu'on dit pour être élu, c'est humain. Hein, jamais personne en campagne n'a dit « je vais être honnête, la majeure partie de la journée, je vais être en post-clope et le reste du temps, je ferai des saunas avec des prostituées ». Alors oui, on s'est moqué en la voyant vider les poubelles jaunes, on s'est moqué en regardant Xavier Bertrand vérifier la cuisson des steaks, parce qu'il y a un côté ridicule à ça. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin de vivre la vie des autres pour la comprendre. Tu peux avoir de l'empathie pour un migrant sans t'embarquer avec 37 personnes sur un zodiaque conçu pour 12 entre Calais et le Royaume-Uni. Nous, les humoristes, certains, vous savez, on fait toute une carrière sur la détestation des politiques. C'est super simple. Vous arrivez sur scène, vous dites « tous des fils de... » Il y a 2000 personnes qui exultent. Hein, mais si vous dites sur scène « je voudrais mettre une nuance, il y en a en politique qui font ce qu'ils peuvent », les 10 personnes qui sont là se regardent et disent « ok, j'espère qu'après, il va les traiter de fils de pute, parce que 34 euros quand même le billet ». En fait, vous voyez, les politiques, s'ils restent dans leur univers, on dit « ils sont hors sol », s'ils essayent d'imiter la vie des gens, on les dénigre. Reste l'entre-deux, les politiques sur le terrain, qui n'enfilent ni Charlotte, ni gilet fluo, mais qui sont à l'écoute. C'est moins spectaculaire, mais ils sont nombreux, nombreux à ne pas être des fils de p...
Merci, Tanguy Pastou.
Tanguy Pastou est sur scène, mais également en librairie. L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite. C'est signé Tanguy Pastou aux éditions du Rocher.
Les saisons sur Arte, cette série, mini-série ou grand film, 4 épisodes, réalisé par Nicolas Maury, qui joue le rôle de Massimo également dans cette série, aux côtés de Lucas Bravo, qui est notre invité. Il y a également Abraham Wappler, Stéphane Gaillard, Marisol Fertard, Martine Chevalier, Géraldine Pellas, Emmanuel Hiron, Ophélie Beau, Pauline Parigot, Régis Nkissi et Yasser Nassif. D'autres événements culturels, oui. Leïla.
On cherche un documentaire consacré à un acteur qui a la spécificité aussi d'être un danseur. Il a été révélé quand il avait 40 ans, en incarnant un méchant dans un James Bond. Il pleurait des larmes de sang dans Casino Royale. De qui est-ce que je parle ? Absolument, Mads Mikkelsen. À qui un documentaire est consacré sur Arte, qui sera diffusé mercredi en deuxième partie de soirée. Cet acteur bouleversant dans La Chasse de Thomas Vinterberg, où il incarne un éducateur accusé injustement de pédophilie. C'est un film à voir absolument. Il avait aussi pris la suite d'Anthony Hopkins dans la série sur Hannibal Lecter de Brian Fuller. Sans oublier ce personnage de cinquantenaire dans Drunk, hein, qui teste le maintien de son taux d'alcoolémie pour voir si la vie serait éventuellement plus douce, où il se livre justement un moment de danse hyper beau, hyper charmant. J'ai une passion pour Mads Mikkelsen. Vous, vous avez une passion pour quel acteur ? Quel acteur vous fascine ? Quel acteur, dans ses moindres mouvements, vous ne pouvez pas décrocher votre regard ?
Robert De Niro. Oui. C'est vraiment pour moi l'acteur... comme je dis souvent, un personnage au cinéma, c'est une personne plus de l'âge. C'est-à-dire que pour moi, c'est autant un documentaire sur l'acteur qui est en train de jouer le rôle. Et par exemple, De Niro dans Mean Streets, où on voit un chien fou arriver dans le premier film de Scorsese, jusqu'à Casino, qui est un de mes films cultes, moi, où j'ai... Et puis pour la petite histoire, c'est que mon papa, qui est parti il y a 2 ans, ressemblait vraiment beaucoup, beaucoup à De Niro. Et j'ai le même grain de beauté que lui, je peux faire comme ça.
Oh, j'ai cru un moment, là.
Bah oui. Et non, il y a lui, puis il y a aussi il y a surtout des actrices de ma vie qui sont pour moi les vrais soldats, mais Lucas, et je me suis aperçu qu'il était aussi un peu actrice, et c'est un grand acteur que j'admire.
Et vous, Lucas?
Merci. Je pense la même chose de toi.
Mads Mikkelsen était là quand on s'est rencontrés.
Ah oui, quand vous l'avez évoqué tout à l'heure, je me suis dit,
il est d'une classe, d'une élégance et d'un il est facile, quoi. Il est vraiment facile et il est toujours, il fume ses cigarettes sans filtre. Il faut pas essayer de boire de l'alcool avec lui.
Ni son agent non plus.
Les deux vous couchent facilement. Ouais. Mon père était là, d'ailleurs, je l'ai amené à un des événements. Il a essayé de, voilà. Ça s'est mal fini pour nous.
Et pourtant.
C'est pas bien.
Parlons théâtre un tout petit peu, Nicolas Maury. Vous serez les 7 et 8 janvier dans Phèdre, au théâtre d'Arles.
Oui.
Non ?
Oui, tout le mois de janvier, je joue.
Enfin, ah, pardon, je pensais que c'était les 7 et 8 uniquement.
Non. Et puis après, je vais jouer Proust, justement, c'est pas une blague, au Théâtre Marigny, en février-mars. Mais ça, vous ne le saviez pas.
Et c'est vrai que vous préparez un album avec Adrien Gallo, qui a fait la musique de...
Oui.
La saison ?
Oui.
Racontez ?
Oui, j'avais déjà...
Un nouvel album ? Vous avez déjà sorti un album ?
Un album, ouais. il y a quelques temps. Et là, c'est mon deuxième chemin. Je sais que tu
ça, c'est vous.
Et voilà, et le deuxième album, on a 8 chansons. Et c'est... Ouais, j'ai rencontré un frère.
Et 10% le film va voir le jour ou pas, finalement ?
Oui, on l'a tourné.
Là. C'est fait ?
C'est okay. fait, ça va être assez fou. C'était incroyable parce que ces personnages ne nous appartiennent plus. Et on avait tous une responsabilité par rapport à cette attente quand même assez démente, worldwide, comme on dit. C'est qu'elle est devenue internationale, cette série. Et je crois que ce sera à la hauteur, j'espère.
Série internationale également, Lucas Bravo. La saison 5 d'Emily in Paris sur Netflix arrive. Lily Collins a débarqué à Paris. Ça fait plein de stories sur les comptes Insta et autres TikTok. Et il y a une projection ce soir, c'est ça ?
Oui, ce soir au Grand Rex.
Non, mais t'es pas obligé de donner l'adresse.
Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai dit d'ailleurs.
Ça a été annoncé. Hein.
C'est vrai ?
Oui.
Je pense qu'il y aura plus de monde dehors que dedans. Voilà. Mais, okay.
Et mon adresse, c'est le 200.
Emily in Paris, c'est quand même une belle histoire où ça risque d'être un boulet à vos pieds.
Bah, je sais que ça va me suivre toute ma vie. Après, ça a tout démarré pour moi. Donc, même si au début, j'avoue que les premières années, je luttais un peu contre cette image qui allait me coller à la peau parce que je voulais apporter de la nuance un peu à ma carrière. Maintenant, j'ai un peu compris qu'il fallait. Faut pas aller à contre-courant. Je suis content que les gens connectent avec cette série. Je suis content de ce que ça leur apporte.
Et vous croisez des réalisateurs intelligents qui peuvent vous voir autrement que dans le personnage d'Emily.
Croiser Nicolas sans ça, c'est vrai.
Voilà. Et puis surtout, en faisant d'autres films, on peut embrasser Julia Roberts, je le rappelle. il l'a fait. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour Nicolas Maury qui a subi les vexations, les agressions, les humiliations du couple Ceausescu, du service public, les Balkany de la culture, Nagui et Leila. Il n'en restait plus que l'humiliation physique. Le prenez pas mal, Nicolas. Vous savez qu'on a Guy M, il est méchant, très très méchant. Et waouh, qu'est-ce qu'il vous aime ! Désolé pour la précision journalistique qui a été sagouinée par Nagui quand il s'est lancé dans un dérapage incontrôlé en appelant la série Merteuil-Valmont, en confondant Lucas Bravo, Vincent Lacoste. Voilà, c'était du même acabit. Et dire qu'il a fait ça devant des élèves, j'ai du mal à ma carte de presse et à l'éducation nationale. Désolé encore une fois pour vous, Nicolas. Nicolas qui a découvert ce matin que Nagui, son fantasme inavouable, son ADN, son Fennec expiègle, son sarcophage interdit, enfin bref, avait pris quand même un sacré coup de pelle. Mais revenez jeudi, Nicolas, on fait une émission spéciale sur l'Égypte antique avec Bruno Solo, et là, on en saura beaucoup plus sur Nagui.
Des fouilles curieuses.
Et Daniel voilà. Est en spectacle, il est sur scène le 15 février, vous le retrouvez à Strasbourg.
Absolument.
On va se quitter sur cette musique pour les saisons, jeudi sur Arte, les 4 épisodes sur arte.tv et 4 saisons également pour 10%, je suis en train de réaliser, ça vous poursuit hein, les 4 saisons, elles sont intégralement visibles sur
Netflix,
voilà, qui est fait. Merci beaucoup Lucas Bravo, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était
Nicolas Maury, et surtout bravo pour cette série. Demain, c'est Philippe Conticini qui sera notre invité pour parler des desserts de Noël. Les garnis de campagne, Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour Nagui, salut tout le monde.
J'ai oublié un détail important. Dites-moi. Vous avez reçu une mention spéciale au Festival de la fiction de La Rochelle. Pardon de l'avoir omis. Oui, merci. Dorothée, excuse-moi.
C'était Nicolas Maury, donc, la mention spéciale.
Bah, toi aussi. Oui.
Bravo.
Alors moi, dans les carnets, je parle de l'effraie des clochers. C'est une chouette, Nagui. Une chouette menacée de disparition. Et pour la protéger, on installe des nichoirs chez les particuliers. On cherche encore des bénévoles, enfin des volontaires pour installer des nichoirs.
Pour accepter ça.
Voilà.
Ouais, merci.
Je prends.
À demain. Ouais, salut.
Chouette émission.